Chapitre 88, comment Dieu nous éprouve. Notre cause est pendante au tribunal céleste. Nous y rendrons compte de tous nos actes, et chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Autrefois, Dieu n'acceptait les offrandes et les sacrifices que s'ils étaient offerts dans l'esprit voulu.
Samuel disait, « L'Éternel trouve tes poings et elle du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?»
Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tout l'argent du monde ne saurait nous assurer les bénédictions divines, ni une seule victoire. Beaucoup sont disposés à tous les sacrifices, sauf aux seuls qu'ils doivent consentir, et qui consistent à se donner eux-mêmes et à soumettre leur volonté à celle de Dieu. Le Christ disait à ses disciples, « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Nous avons là une leçon d'humilité. Il nous faut tous devenir humbles comme de petits-enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Notre Père céleste connaît le cœur des hommes. Il connaît leur caractère mieux qu'eux-mêmes. Il sait que quelques-uns ont des talents qui, bien employés, contribueraient à sa gloire et à l'avancement de son œuvre. Il met ces personnes à l'épreuve et, dans sa sage providence, il leur confie différents postes et les soumet à des circonstances variées afin de leur donner l'occasion de révéler ce qui est dans leur cœur. Ils peuvent ainsi corriger certaines faiblesses de caractère qu'ils ignoraient eux-mêmes et adoucir les côtés rudes de leur nature. Lorsque le Seigneur les appellera à l'action, ils seront prêts et les anges pourront s'unir à eux dans l'œuvre qui doit être poursuivie ici-bas. Aux hommes qu'il choisit pour occuper des postes de confiance, Dieu révèle dans sa miséricorde leurs défauts cachés pour qu'ils puissent sonder leur propre cœur et voir ce qui est défectueux. C'est ainsi qu'ils pourront modifier leur tempérament et raffiner leur manière. Dans sa providence, le Seigneur place les hommes là où il peut éprouver leurs énergies spirituelles et révéler les mobiles de leurs actions pour qu'ils améliorent ce qui est bien et rejettent ce qui est mal. Il voudrait que ses serviteurs se familiarisent avec les réactions intimes de leur être. Pour cela, il permet souvent que le feu de l'affliction les purifie. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Demande le prophète Malachie. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. La purification du peuple de Dieu ne se fera pas sans souffrance. Le Seigneur permet au feu de l'affliction de consumer les scories, de séparer ce qui est indigne de secours et bon afin de faire briller le pur métal. Il nous fait passer d'un feu à un autre pour se rendre compte de notre valeur réelle. Si nous ne pouvons supporter ces épreuves, que ferons-nous au temps de détresse? Si la prospérité ou l'adversité fait apparaître la duplicité, l'orgueil ou l'égoïsme de nos cœurs, que ferons-nous lorsque Dieu éprouvera par le feu l'œuvre de chacun et révélera les secrets de tous les cœurs? La vraie grâce accepte volontiers l'épreuve. Si nous avons de la répugnance à être éprouvés par le Seigneur, notre condition est vraiment sérieuse. Dieu raffine et purifie les âmes. À la chaleur de la fournaise, les scories sont séparées de l'argent et de l'or du caractère chrétien. Jésus surveille l'épreuve. Il sait ce qui est nécessaire pour purifier le métal précieux afin que celui-ci reflète la splendeur de l'amour divin. Jésus a ouvert la voie. Dieu attire à lui son peuple par de rudes épreuves, en lui révélant ses faiblesses et ses incapacités et en lui apprenant à s'appuyer sur lui comme étant le seul secours et l'unique sauvegarde. Alors, son but est atteint. Ses enfants sont prêts à toute éventualité. Ils pourront occuper des postes de confiance et atteindre le grand but pour lequel des talents leur ont été départis. Dieu met les hommes à l'épreuve. Il le fait de toute manière. Et c'est ainsi qu'il les éduque, les enseigne, les discipline. Jésus, notre Rédempteur, représentant et chef de l'homme, a passé lui-même par cette épreuve. Il a souffert plus que nous ne pouvons être appelés à le faire. Il s'est chargé de nos infirmités et il a été tenté comme nous en toutes choses. Il ne souffrit pas pour son propre compte, mais à cause de nos péchés. Et maintenant, grâce au mérite de celui qui vainquit pour nous, nous pouvons vaincre en son nom. Cette œuvre de purification doit se poursuivre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient assez humbles, assez morts à eux-mêmes pour n'avoir d'autre but que la gloire de leur maître lorsque celui-ci les appellera à se mettre au travail. Dieu acceptera alors leur concours. Ils n'agiront pas d'une manière inconsidérée, par impulsion. Ils ne mettront pas en péril la cause du Seigneur, car ils ne seront plus esclaves de la tentation et des passions de leur chair dominées par Satan. Comme l'œuvre de Dieu peut être mise en danger par la volonté pervertie de l'homme ou par un caractère non contrôlé. Quelle souffrance celui-ci attire sur lui-même en s'obstinant dans ses passions. Dieu ne cesse d'éprouver les hommes, jusqu'à ce qu'une parfaite humilité et une transformation de leur caractère les amènent en harmonie avec le Christ et leur donnent la victoire sur eux-mêmes. Dieu a appelé des hommes de différents milieux. Il les a éprouvés afin de voir s'il était possible de leur confier la garde de la forteresse d'eux. Suppléraient-ils aux déficiences de ceux qui étaient déjà là, et, constatant leur faiblesse, fuiraient-ils l'exemple d'ouvriers qui ne sont pas aptes à s'engager dans l'œuvre la plus sacrée qui soit? Dieu n'a cessé d'envoyer des avertissements, des reproches, des conseils. Il a fait luire une grande lumière sur ceux qui travaillent en cet endroit afin d'aplanir le chemin devant eux. Mais s'ils préfèrent suivre leur propre sagesse, méprisant la lumière comme Saül, ils s'égareront sûrement et mettront la cause en difficulté. La lumière et les ténèbres ont été placées devant eux, mais ils ont trop souvent choisi les ténèbres. Le message à Laodicée. Le message à Laodicée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Il leur a donné la lumière sur chaque point, pour les instruire, les encourager et les affermir dans certains cas. Néanmoins, ceux qui devraient être fidèles, loyaux, animés d'un zèle fervent, aimables, connaissant Jésus et l'aimant sincèrement, secondent l'ennemi, affaiblissant ainsi et décourageant ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité, et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Le seul espoir pour les Laodicéens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Ils ne sont ni froids ni bouillants. Ils sont tièdes, et ils se flattent de ne manquer de rien. Le témoin fidèle est la tiédeur. Il a en horreur l'indifférence. Il dit, « Tu n'es ni froid ni bouillant. » Comme l'eau tiède, ils donnent la nausée. Ils ne sont ni indifférents, ni opiniâtrement égoïstes. Mais ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu, en s'identifiant eux-mêmes avec elle. Ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste si leurs intérêts personnels sont en jeu. L'œuvre de la grâce n'agit pas dans leur cœur. C'est d'eux qu'il est dit, « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. » Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le remède de Dieu. La foi et l'amour sont les vraies richesses, l'or pur que le témoin fidèle conseille d'acheter. Cependant, aussi riches que nous puissions être en bien de ce monde, toute notre fortune ne pourrait nous permettre d'acheter les précieux remèdes qui guérissent la maladie de l'âme, appelée tiédeur. L'intelligence et les richesses terrestres ne pouvaient faire disparaître les défauts de Laodicée, ou remédier à sa condition déplorable. Les membres de cette église étaient aveugles et ne s'en doutaient pas. L'Esprit de Dieu n'illuminait pas leurs esprits, et ils ne connaissaient pas leur état de péché. C'est pourquoi ils n'éprouvaient pas le désir d'être secourus. C'est une bien triste chose que d'être privé des grâces de l'Esprit de Dieu. Mais c'est plus terrible encore d'être dépourvu de spiritualité, d'être séparé du Christ et d'essayer de se justifier en disant à ceux qui s'alarment à notre sujet que nous n'avons nul besoin de leur crainte et de leur piété. Il est effrayant de constater à quel point on peut se faire illusion sur son propre compte. Quel aveuglement ! Prendre la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière. Le témoin fidèle nous conseille de lui acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, et un collyre pour nos yeux. L'or ici recommandé comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Il enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur, et plus il a été raffiné, plus il brille. Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère, la justice du Christ imparti aux pécheurs. C'est un vêtement de texture céleste, qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Le collyre, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien, et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné à son Église des yeux qu'il veut oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir. Mais nombreux sont ceux qui, s'ils le pouvaient, les arracheraient. Ainsi, leurs actes ne viendraient pas à la lumière et ne pourraient être condamnés. Le collyre divin communique la clarté à l'intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit, « Achetez de moi ceux qui seront rejetés. » Il en est qui prétendent que c'est en exaltant ses propres mérites qu'on peut compter sur les faveurs de Dieu. En réalité, il nous est impossible d'obtenir une seule victoire par nos bonnes œuvres. Mais nous ne pouvons être victorieux sans elles. L'achat recommandé par le Christ ne consiste qu'à se soumettre aux conditions requises par lui. La grâce divine, qui est d'une valeur inestimable, et qui permet d'affronter l'épreuve et l'adversité, ne peut s'obtenir que par la foi, l'humilité et la prière. La grâce qui traverse victorieusement l'affliction et la persécution manifeste sa vigueur et sa sincérité. C'est l'or éprouvé par le feu. Le Christ offre de vendre ce précieux trésor, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. S'acquitter sans enthousiasme d'un devoir ne peut faire de nous de vrais chrétiens. Nous devons sortir de notre tiédeur par une conversion réelle, sinon nous ne serons pas sauvés. Mon attention a été attirée sur l'action de la Providence parmi le peuple de Dieu, et j'ai vu que chaque épreuve envoyée pour raffiner et purifier ceux qui se disent chrétiens a pour but de faire apparaître les scories. Leur fin ne se discerne pas toujours. À chaque crise religieuse, quelques-uns succombent à la tentation. Lorsque Dieu passe au crible les hommes, beaucoup sont dispersés comme les feuilles mortes. La prospérité multiplie ceux qui se prétendent chrétiens. L'adversité les chasse de l'Église, car ils sont infidèles. Ils nous quittent parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Lorsque la persécution survient à cause de la parole, beaucoup sont scandalisés. Que ces hommes se souviennent qu'il y a peu de temps encore, ils examinaient le cas de certains frères qui étaient dans une condition analogue à celle qui est la leur aujourd'hui. Qu'ils pensent donc sérieusement à ceux qui sont tentés. Ils se sont trompés eux-mêmes. Quand tout était calme, quelle fermeté ils manifestaient. Quels courageux matelots ils étaient. Mais lorsque la tentation est survenue comme une tempête, leurs âmes ont fait naufrage. Les hommes peuvent avoir des dons merveilleux, de grandes capacités. Mais un seul défaut, un seul péché secret, amènera le désastre et la ruine. Ce qu'il faut pour avancer. Ceux qui occupent des postes de confiance ne devraient pas cesser de se développer. Qu'ils ne croient pas que les expériences du passé soient définitives et qu'ils ne considèrent pas comme inutile d'augmenter leur bagage intellectuel. L'homme, bien qu'il soit, à sa naissance, la plus faible des créatures de Dieu, et par nature la plus pervertie, est néanmoins susceptible de développement continuel. Il peut être éclairé par la science, ennobli par la vertu, et progresser mentalement et moralement jusqu'à ce qu'il atteigne à la perfection de l'intelligence et à la pureté du caractère qui n'est qu'un peu au-dessous de la perfection et de la pureté des anges. Malgré la lumière de la vérité qui illumine les esprits des hommes et l'amour de Dieu qui inonde leur cœur, ils ne peuvent se faire une idée de ce qu'ils sont capables de devenir et de l'œuvre immense qu'ils sont à même d'accomplir. Je sais que le cœur humain ignore sa véritable condition. mais je ne puis m'empêcher de vous venir en aide. Nous vous aimons, et nous désirons vous voir marcher à la victoire. Jésus vous aime. Il est mort pour vous, et il veut que vous soyez sauvés. Nous n'avons aucun intérêt à vous maintenir à. Mais nous voudrions que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour votre propre âme, vous débarrassant de toute erreur et vous efforçant de contrôler votre moi, afin de ne pas être perdu. Pour l'amour du Christ, résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'œuvre d'élagage et de purification qui nous préparera pour le ciel est une grande œuvre qui nous coûtera beaucoup de souffrances et d'épreuves, parce que notre volonté n'est pas soumise à celle du Christ. Nous devons passer par la fournaise jusqu'à ce que le feu ait consumé les scories, et que nous soyons purifiés pour refléter l'image divine. Ceux qui suivent leurs propres inclinations et qui se laissent dominer par les apparences ne sont pas de bons juges des agissements du Seigneur. Ce sont des insatisfaits. Ils appellent défaite ce qui est en réalité un triomphe et perte ce qui est un gain. Comme Jacob, ils sont prêts à s'écrier, « C'est sur moi que tout cela retombe », alors que les choses mêmes dont ils se plaignent concourent à leur bien. Sans croix il n'y a pas de couronne. Comment pourrait-on être fort dans le Seigneur sans épreuve? Pour être fort, il faut faire de l'exercice. Pour avoir une foi solide, nous devons être placés dans des circonstances où nous puissions l'exercer. L'apôtre Paul, peu avant son martyre, exhortait Timothée en ces termes, « Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Notre Sauveur a subi toutes les épreuves possibles, et pourtant il a triomphé en Dieu constamment. C'est notre privilège d'être fort de la force d'en haut dans toutes les circonstances et de nous glorifier dans la croix du Christ. »